VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. RCA, Amnesty International et plusieurs organisations de la société civile centrafricaine lancent le 11 mai une campagne nationale pour exhorter les autorités centrafricaines à s'engager contre l'impunité en forçant les responsables de crimes graves à répondre de leurs actes. Olivia Tchamba, la responsable chargée des campagnes d'Amnesty en Afrique centrale, explique les enjeux de cette entreprise.
La campagne que nous lançons, la justice maintenant pour une paix durable en République centrafricaine, est une campagne qui vise à obtenir justice et réparation pour les victimes. Dans le cadre de cette campagne, nous appelons à veiller à ce que les accusations sérieuses de crimes relevant du droit international et d'autres atteintes aux droits de l'homme fassent l'objet dans les plus brefs délais, d'enquête rigoureuse, indépendante mais impartiale. Nous mettons l'accent, en fait, pour atteindre cet objectif sur deux points clés, notamment le renforcement du système judiciaire national, qui a été très affaibli par la crise depuis 2012, et ce renforcement notamment en garantissant le bon fonctionnement des juridictions nationales pour mettre fin au cycle de l'impunité. Mais au-delà de ce volet national de la justice, il est important aussi de veiller à apporter un soutien nécessaire à la Cour pénale spéciale ainsi qu'à la Cour pénale internationale afin que justice soit rendue pour ces milliers de victimes.
Olivia Tchamba, la responsable chargée des campagnes d'Amnesty International en Afrique centrale. RDC, 3 mois et 11 jours après sa mort, le chef historique de l'opposition congolaise Étienne Tshisekedi n'est toujours pas enterré. Son parti, l'UDPS, a renvoyé à une date ultérieure le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa, qui était prévu pour le 12 mai. Le parti du défunt continue de se battre avec le pouvoir en place au sujet de ses funérailles et de son lieu de sépulture. Le compagnon de lutte de l'opposant décédé, François-Xavier Belchika, plaide pour le repos de l'âme du disparu au micro d'Eddie Isango.
Le pouvoir ne devrait pas avoir peur qu'on puisse rapatrier le corps du président Tshisekedi. Mais l'essentiel est qu'il puisse trouver un accord avec la famille politique du président Tshisekedi et surtout la famille biologique, un lieu où on peut l'enterrer, mais que ce soit sur le sol de ses ancêtres. Nous ne croyons pas que cela soit impossible. Même si aujourd'hui on ne veut pas lui construire le fameux mausolée, l'histoire n'étant pas inerte, si un jour il a bien dans son pays un pouvoir qui reconnaît au président Tshisekedi le mérite de tout son combat, là pour construire ce mausolée-là, qu'on ne passe pas la confusion, qu'on puisse laisser le président Tshisekedi ou Amunumba partir en paix avec la volonté de souhaiter que la terre de ses ancêtres lui soit légère.
François-Xavier Belchika, président du Congrès des démocrates pour le progrès social en RDC. Au Burkina Faso, les syndicalistes se mobilisent contre un projet de loi qui restreint le droit de grève dans de nombreux corps de la fonction publique. Norbert Wangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina, dit non à cette proposition soumise aux députés. On l'écoute.
Cette proposition de loi a été imaginée, en fait, pour empêcher les grèves, pour faire en sorte que les grèves ne puissent plus porter fruit. Il faut regarder les problèmes qui sont posés. Est-ce que c'est des problèmes objectifs ou pas? Et quand vous considérez que dans bien de cas, il s'agit d'engagements qui ne sont pas tenus, on ne peut pas reprocher aux travailleurs de faire beaucoup de mouvements. La proposition de loi, effectivement, est une remise en cause du droit de grève. Elle viole certaines conventions du BIT relatives justement au droit de grève, comme la convention 87, la convention 98. Si on veut nous empêcher juste du droit de grève, nous allons mener la grève.
Norbert Wangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant, le Niger, le Mali et le Tchad confrontés aux attaques djihadistes et trafic de toutes sortes ont signé à Niamey un accord historique de coopération judiciaire. Le point avec John Lindon.
Les frontières entre le Mali, le Tchad et le Niger n'existaient plus en matière judiciaire, a commenté le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Hassan, qui salue un accord historique dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Pour Marou Amadou, ministre nigérien de la Justice, la signature de cet accord intervient à un moment où le Tchad, le Niger et le Mali sont confrontés aux grands défis de l'heure, le terrorisme et le crime organisé, le trafic de drogue, la traite des personnes et le trafic des armes. L'accord signé par les ministres de la Justice de ces trois pays prévoit la mise en place de commissions rogatoires internationales, l'échange entre les États des actes judiciaires, la comparution des témoins, experts et personnes poursuivies et une politique de coopération en cas d'extradition. Il autorise également des enquêtes conjointes et le transfert des poursuites. Les trois pays sont en proie à de nombreuses attaques des groupes djihadistes, dont Boko Haram.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nigeria, les États-Unis vont continuer d'appuyer le gouvernement nigérian dans sa lutte contre les extrémistes de Boko Haram et de l'État islamique. Et à l'aider à faire face à la crise humanitaire qui frappe le pays dans sa partie nord-est. C'est ce qu'a indiqué Brian Norwood, l'un des porte-parole du département d'État américain en Afrique, quelques jours après la libération des 82 filles de Chibok détenues par Boko Haram pendant 3 ans. M. Norwood a été joint à Johannesburg par Abdourahmane Dia.
Pour les États-Unis, l'avenir du Nigeria n'est pas seulement important pour le Nigeria, c'est aussi considérablement pour ses voisins, bien sûr, mais je dirais pour le monde entier. Étant donné la population, l'influence, c'est une économie qui pourrait être très forte, mais aussi c'est un pays qui actuellement fait face à plusieurs défis, y compris ceux qui sont défis de l'insécurité.
Et justement, la lutte contre le groupe Boko Haram et l'extrémisme de façon générale est une priorité pour le gouvernement d'Abuja. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle dynamique dans la coopération militaire entre le Nigeria et la nouvelle administration Trump?
Je dirais, concernant cette situation grave, ce défi difficile au nord-est du Nigeria, vous parlez de Boko Haram et aussi nous parlons du groupe Daesh en Afrique de l'Ouest. Ils ont fait quelques milliers de victimes et eux, ils sont la cause de même de l'insécurité de plusieurs millions de personnes au Nigeria et dans les pays frontières. Nous avons et nous continuons les États-Unis être parmi les bailleurs de fonds les plus importants aux questions d'aide humanitaire, mais aussi les États-Unis aident le gouvernement, les autorités nigériennes en tant que conseil et renseignement pour faire face à ces groupes extrémistes violents. Et ça continue, ça va continuer parce que, comme je disais, ce défi n'est pas uniquement un problème pour les Nigériens, mais c'est pour toute la région.
Et vous parliez tout à l'heure de la crise humanitaire. Quel est l'apport aujourd'hui des États-Unis dans l'aide des gouvernements de la région du lac Tchad?
Les États-Unis fournissent déjà près de 500 millions de dollars d'aide humanitaire au cours de 2 dernières années aux personnes affectées dans ce conflit. Ça continue. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres bailleurs de fonds, il y a d'autres partenaires. Je voudrais souligner pour les États-Unis que c'est les Nations Unies qui jouent un rôle très important pour confronter ces conditions proches de la famine.
Brian Norwood, l'un des porte-parole du département d'État américain en Afrique. Et puis au Libéria, les prélèvements sur les victimes d'une maladie mystérieuse signalée depuis plus de 2 semaines se sont avérés positifs à la méningite. Les détails avec Morgan Guiriek.
Selon un communiqué du ministère libérien de la Santé, 31 cas, dont 13 décès, ont été enregistrés dans 3 provinces. Les premiers symptômes provoquent de la fièvre et des vomissements. Cette maladie a d'abord été enregistrée le 23 avril dans la province de Sinoué, puis propagée jusqu'à Monrovia, la capitale. Les analyses des prélèvements sur des patients ont été négatives au virus de la fièvre Ebola et de la fièvre de Lassa, mais les tout derniers échantillons transmis au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta se sont révélés positifs à la méningite. Le Libéria n'avait jamais connu de cas de méningite et qui fait des ravages dans le Sahel. Le pays a déjà été sévèrement touché par l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée en Afrique de l'Ouest en décembre 2013 et avait fait plus de 11 300 morts dans 3 pays de la région.
Conflit en Somalie, la conférence internationale sur ce pays de la Corne de l'Afrique a commencé ce jeudi à Londres. Objectif, mettre au point les grandes lignes de nouveaux partenariats économiques et sécuritaires capables d'améliorer la situation dans les des États les plus pauvres et instables du monde. La conférence réunit une quarantaine de délégations et des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Ligue arabe, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du ministre américain de la Défense, James Mattis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.